Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la dysplasie fibreuse des os, ou DFO. Et pour parler du diagnostic de cette maladie rare, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Aïcha Eltaïev-Boudriga. Docteur Eltaïev-Boudriga, bonjour.
Bonjour.
Docteur Eltaïev-Boudriga, vous êtes radiologue, praticien hospitalier au sein du service d'imagerie médicale et interventionnelle de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Et vous avez participé à l'élaboration du récent PNDS sur les dysplasies fibreuses des os et syndrome de McCune-Albright. Alors pour débuter notre entretien, docteur Eltaïev-Boudriga, dans quelles conditions vous sont adressés les patients atteints de dysplasie fibreuse des os ?
Alors, dans la dysplasie fibreuse, l'atteinte osseuse, elle est souvent découverte de manière fortuite sur un cliché radiographique qui est réalisé pour une autre raison. Et cela est particulièrement vrai pour les lésions monostotiques qu'on va voir sur la diaphyse ou la métaphyse des os longs, notamment pour le col fémoral. Et la découverte fortuite, elle est fréquente aussi pour les localisations costales, rachidiennes et puis de la région crânio-faciale, souvent sur des déformations de la face ou du crâne non douloureuses. Plus rarement, la découverte, elle sera sur une fracture pathologique, c'est-à-dire sur une fracture qui va survenir sur un foyer de dysplasie fibreuse, notamment pour le col fémoral, qui est un os porteur, et puis pour tous les autres os longs. Et puis les patients nous sont aussi parfois adressés dans le cadre de leur suivi radiologique.
Et quels sont les examens de première intention réalisés en radiologie ?
Alors, c'est la radiographie standard qui est l'examen de première intention, avec en général deux incidences orthogonales, une face et un profil. Et puis en cas de doute, une scintigraphie osseuse permettra de voir s'il y a d'autres localisations. Et un scanner centré et ou une IRM injectée permettront de mieux analyser l'architecture et la matrice lésionnelle pour poser le diagnostic et éliminer les diagnostics différentiels. Ce qui est surtout vrai pour et fréquent comme situation pour les localisations crânio-faciales notamment.
Et quelles sont les caractéristiques radiologiques de ces lésions de dysplasie fibreuse ?
Alors, ce sont des lésions que l'on voit, qu'on peut voir sur tout le squelette, hein, axial ou périphérique. L'analyse en radiographie au scanner va montrer des lésions qui sont centrales, allongées, qui sont topographie métaphyso-diaphysaire et qui épargnent les épiphyses. Et elles vont être de type lacunaire ou condensante avec des plages de verre dépoli correspondant à une condensation pâle et homogène de la trame. Et ces plages de verre dépoli sont assez évocatrices des lésions de dysplasie fibreuse. La lésion, elle est limitée par un liseré de condensation qui va être net sur deux versants et l'épaisseur de ce liseré d'ostéocondensation est variable. Mais l'aspect de la dysplasie fibreuse dans l'os est soit homogène, soit hétérogène. Et on peut avoir des lésions qui sont plus ou moins soufflantes dans l'os, mais par contre, elles ne vont pas rompre la corticale et elles n'envahissent pas les parties molles. Il faut savoir qu'il y a une variabilité de l'aspect radiologique des foyers de dysplasie fibreuse. On peut avoir une petite lésion bien cerclée qui ne déforme pas l'os, jusqu'à une volumineuse lésion qui est soufflante et qui peut déformer l'os. Et en fonction de du degré d'ossification de la matrice fibreuse, l'aspect du contenu lésionnel peut aller de l'ostéolithe pur à une condensation osseuse plus homogène. Maintenant, en IRM, les foyers dysplasie fibreuse sont habituellement en hyposignal T1 homogène, avec des plages en hypersignal T2 en rapport avec la matrice fibreuse, ou en hypersignal T2 pseudo-liquidien en rapport avec des portions kystiques ou cartilagineuses. Et il existe une prise de contraste habituelle de ces foyers fibreux, sauf les zones qui sont très ossifiées. Alors, un petit mot sur une forme particulière qu'est la dysplasie fibro-cartilagineuse, qu'on rencontre parfois, qu'on rencontre plutôt dans les formes polyostotiques et sur les os longs, notamment le fémur. Il faut savoir que quelle que soit la localisation, l'analyse de l'IRM seule expose au risque d'une erreur de diagnostic parce qu'il y a un aspect polymorphe de la maladie en IRM. En données générales, il faut savoir que les lésions peuvent avoir un aspect différent d'un os à l'autre, et ce, chez un même patient. La distribution des lésions sur le squelette peut être très évocatrice lorsqu'elle touche un même métamère, c'est-à-dire une vertèbre et une côte adjacentes, par exemple, ou lorsque cette distribution est hémimélique, c'est-à-dire que plusieurs os situés sur la même moitié de squelette sont touchés. Voilà, un petit mot également sur un syndrome un peu plus rare, mais qui existe et associé à la dysplasie fibreuse, qui est le syndrome de Mazabro. Il associe une dysplasie fibreuse à un ou plusieurs myxomes intramusculaires. Ils peuvent être découverts, ces myxomes, sur des douleurs ou un gonflement du membre, ou alors c'est une découverte fortuite, souvent parce qu'ils sont multiples et voisins de la lésion osseuse.
Et d'un point de vue radiologique, Dr Eltaïev-Boudriga, quel diagnostic différentiel écarter?
Alors, là, on va différencier les localisations pour les dysplasies fibreuses aux os longs. Dans les formes polyostotiques, les principaux diagnostics différentiels, c'est le myélome multiple, les métastases osseuses, les chondromes multiples, la neurofibromatose. Mais en général, le contexte clinico-biologique permet de bien orienter le diagnostic d'emblée. Et dans les formes monostotiques, le foyer de dysplasie fibreuse peut mimer une dysplasie ostéofibreuse. Ça, c'est pour les localisations au tibia et à la fibula. Ça peut mimer un granulome de réparation à cellules géantes, ou un hémangiome, ou un kyste anévrismal, un kyste osseux solitaire, ou une lésion kystique et graisseuse, ou des lésions malignes de type ostéoblastome, ostéosarcome central bien différencié, un plasmocytome solitaire. Maintenant, pour les localisations crânio-faciales, les principaux diagnostics différentiels sont le chérubinisme, le granulome de réparation à cellules géantes, l'ostéite mandibulaire aseptique qui rentre dans le cadre du SAFO, les méningiomes en plaques de la voûte et de la base du crâne, la maladie de Paget et toutes les lésions ostéofibreuses des maxillaires, notamment des arcades dentaires, maxillaires supérieures et mandibulaires. En cas de doute persistant sur une lésion qui est une lésion osseuse isolée d'allure agressive, une biopsie osseuse sera faite en centre spécialisé pour un examen anatomopathologique et recherche du variant pathogène du gène GNAS.
C'est très clair, merci. Et du coup, comment le radiologue s'intègre-t-il dans le parcours de soins des patients atteints de DFO?
Alors, le radiologue, il va être sollicité initialement pour poser le diagnostic sur une imagerie au départ. Il peut être également sollicité lorsqu'on suspecte une complication, devant l'apparition d'une douleur osseuse soudaine, localisée, intense ou inhabituelle pour le patient. Et dans ce cas, il va falloir rechercher des complications à type de fissure ou fracture sur un foyer de dysplasie fibreuse. Là, le diagnostic pourra se faire sur les radiographies, scanners, IRM et ou scintigraphie osseuse si les radiographies et le scanner ne suffisent pas. Autre complication où le radiologue pourra être sollicité pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est en cas de compression nerveuse, notamment pour les foramen de la base du crâne et le canal optique, du fait de l'hypertrophie osseuse qui peut avoir autour du nerf optique par une poussée kystique intra-osseuse en général. Et il faut savoir que c'est exceptionnel dans les atteintes rachidiennes qu'on ait des complications à type de compression radiculaire ou médulaire. Donc dans ce cadre-là, lorsqu'une compression nerveuse est suspectée, il faut savoir que c'est au scanner qu'on verra la sténose des foramen et des canaux nerveux, et plutôt en IRM qu'on verra la souffrance des nerfs, donc les anomalies de signal sur les nerfs. Maintenant, autre complication plus rare, hein, la dégénérescence sarcomateuse, c'est une complication, comme je vous disais, qui reste rare et qu'on mettra en évidence au scanner et à l'IRM, devant des signes d'agressivité et d'évolutivité de la lésion, bien sûr avant donc l'imagerie scanner IRM qui sera réalisée avant une biopsie. Et puis le radiologue également peut être sollicité dans le cadre du suivi des lésions à risque de complications plus généralement.
Alors justement, pour conclure, Dr Eltaïev-Boudriga, quel est le suivi radiologique pour ces patients?
Alors, s'il n'y a pas de manifestation clinique invalidante et devant des lésions qui sont non ou peu déformantes radiologiquement, si la lésion est stable et indolore, il y aura une surveillance clinique annuelle et on discutera au cas par cas la surveillance de l'imagerie. En général, on fera un EOS, qui est un examen moins irradiant pour ces surveillances annuelles. Maintenant, s'il y a des douleurs inhabituelles ou si les radiographies montrent une lésion évolutive, alors là, on aura une surveillance qui sera plus rapprochée. Dans le cadre d'une lésion symptomatique ou étendue avec un potentiel évolutif, il y aura alors un suivi annuel, ce qui permettra de décider une éventuelle intervention préventive. Maintenant, pour les localisations crânio-faciales et en cas de sténose ou de risque de sténose du canal optique, sans qu'il y ait de retentissement visuel, Là, il y aura un suivi ophtalmologique régulier tous les 6 mois. Et si une symptomatologie visuelle apparaît, alors là, une imagerie par scanner IRM sera réalisée. Maintenant, dans les atteintes maxillofaciales, l'examen clinique rapproché, notamment chez l'enfant, est nécessaire. Il faut éviter toute irradiation d'origine radiologique trop régulière et le cone beam à sa place dans la surveillance des lésions dysplasiques maxillofaciales.
Eh bien, merci infiniment, Dr Etaïef Boudriga, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la dysplasie fibreuse des os, ou DFO. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.